Mauricie se lève.
Votre source d'information le matin. Voici Catherine Gaudreau.
Que la Mauricie se lève.
Au 106.9 Mauricie.
Salut Raphaël.
Salut Catherine.
Raphaël, quand des autorités électorales, locales, nationales disent l'élection du 3 novembre a été la plus sûre de l'histoire des États-Unis, qu'est-ce qu'il y a à dire après ça?
Il y a à dire que ça ne change rien. Ce n'est pas une question de fait. Ce n'est pas une question de fait depuis le début de cette affaire-là. Ouais. Donc, que cette autorité-là dise ça, qu'elle soit confirmée par 65 autres, ça ne change strictement rien à ce cas-ci. On est, et là, je pense qu'il ne faut pas mâcher ces mots, là, on est carrément en plein cœur d'une campagne de désinformation massive. Je dirais que, évidemment, de la désinformation, de la propagande, c'est pas nouveau en politique, mais quand on le fait avec la démocratie, puis avec le fonctionnement puis la légitimité même des élections dans ce qui est censé être la plus grande démocratie de la planète, ça, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de parallèles pour ça. Donc, c'est grave. On en rit, moi le premier, très souvent là, du phénomène Trump, mais depuis un peu plus d'une semaine, depuis 10 jours, il n'y a rien de comique. C'est carrément une travestie ce qu'on voit. Et écoute, t'en as des exemples quotidiens et ça n'arrête pas.
Non, ça n'arrête pas. Là, hier, bon, Joe Biden a remporté l'État de l'Arizona. Là, ça a été confirmé officiellement. Il reste encore à proclamer, je pense, dans deux États, la Caroline du Nord et la Géorgie. C'est ce qui...
Techniquement,
on est d'accord là-dessus. Ouais. Là. Mais donc, là, Trump refuse toujours de reconnaître la victoire. Mais Raphaël, je me trompe-tu? Oui, j'ai l'impression qu'il ne le fera tout simplement pas.
Écoute, on a quand même affaire à un type qui est extrêmement imprévisible et impulsif. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas prédire à 100% ce qu'il va faire ou ce qu'il ne fera pas. En même temps, je dirais que ma lecture depuis plusieurs jours, c'est essentiellement la tienne. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment peinturé dans le coin. Écoute, c'est pas non plus comme s'il nous avait habitués, là, au cours de sa jeune carrière politique, à être un très bon joueur et à être quelqu'un de gracieux. Là. Donc, ce serait surprenant. En même temps, la question, pour moi, c'est pas simplement comment lui réagit, est-ce qu'éventuellement il concède ou non, parce que c'est très possible, je dirais que présentement, c'est sans doute probable, que jusqu'au jour où il se conduit à sa tombe, il se considère comme étant le vainqueur de l'élection de 2020. Donc ça, c'est très possible que ça change pas. La plus grosse question pour moi, c'est de savoir les gens autour de lui. Parce que il y a beaucoup de républicains qui, depuis les derniers jours, essaient, pardonne-moi l'anglicisme, là, mais de « staller » en disant ouais, on ne veut pas contredire le président essentiellement là, de notre parti. Donc, on va demander de tout simplement avoir ou lui donner ce que Al Gore a reçu en 2000, c'est-à-dire la possibilité de contester devant les tribunaux, puis attendre que les résultats soient officiellement confirmés par les autorités gouvernementales. Parce que lorsque tu parles, par exemple, du résultat annoncé en Arizona, ben techniquement, c'est pas le gouvernement qui l'a annoncé. Ce sont des médias qui l'ont projeté. Et donc, ce qu'on dit, c'est, ce que plusieurs républicains disent, c'est, ben là, ce sont des projections médiatiques. Attendons que ce soit entériné officiellement. OK, parfait. Disons qu'on leur donne le bénéfice du doute, ce qui est quand même pas rien parce que c'est scandaleux en soi de remettre même en question des projections médiatiques de la sorte alors qu'on a toujours opéré comme ça. Mais disons qu'on leur donne le bénéfice du doute. Écoute, Catherine, éventuellement, dans quelques jours, quelques semaines, au maximum, ils vont être entérinés officiellement ces résultats-là.
Ouais,
donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de raison, justement, de staller. C'est la question à $1 million et je n'ai pas de réponse présentement.
Raphaël, hier, j'entendais un spécialiste, un expert dans le monde du renseignement à Washington dire que le fait de ne pas reconnaître, c'est du jamais vu, là, mais que ça, son comportement et le fait de ne pas reconnaître ça, ça met à risque la sécurité nationale. De quelle façon? Comment tu nous l'expliques, ça?
Ça, c'est super pertinent comme question. Pas que les autres que tu m'as posées avant ne l'étaient pas, là, mais celle-là, elle est particulièrement. Parce que il y a beaucoup de gens qui me demandent depuis les derniers jours, depuis que Trump a perdu, là, qu'est-ce qu'il peut faire comme dommage avant de partir? Il y en a encore pour 2 mois et demi. La période de transition est très longue aux États-Unis. C'est certainement beaucoup plus long qu'au Canada, par exemple, qu'il y a un changement de gouvernement. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Puis, ce que les gens doivent réaliser, c'est qu'il n'y a pas besoin de lancer des missiles ou de prendre des actions proactives pour faire des dommages. Tout simplement en ne faisant rien et en s'assoyant là-dessus présentement, il peut faire des torts parce que il empêche présentement au président élu d'avoir accès à des brefages, à des mises à niveau, à des sessions d'information pour lui, pour son personnel, qui évidemment qui va être nommé, ne serait-ce qu'au niveau de la sécurité nationale. Tu sais, quand tu deviens président des États-Unis, là, c'est pas devenir maire d'une petite ville sortie de nulle part. Là, je veux dire, c'est que t'hérites d'un appareil gouvernemental évidemment massif et t'hérites aussi essentiellement des responsabilités, si on veut, jusqu'à un certain point, là, de la sécurité de la planète. Donc, tu peux pas arriver la première journée avec aucune espèce de mise à niveau, puis d'information. Et donc, normalement, quand tu dis que c'est une rupture avec l'histoire, c'est ça qu'on veut dire, c'est que dans ces deux mois et demi de transition-là, le président élu a accès à ça. Donc, les services de renseignement américains, par exemple, lui donnent essentiellement ce que le président en fonction reçoit, donc un brefage quotidien. Et là, on empêche Joe Biden de recevoir ça. On empêche la même chose à son personnel. Écoute, on bloque même les communications qui ont été envoyées au président élu par des chefs d'État étrangers. Donc, c'est extrêmement grave. Et encore une fois, si c'était juste une question de quelques heures, quelques jours, on dirait, bon, OK, mais ça me permet un petit peu de faire le lien avec ce que je te disais il y a une minute, c'est-à-dire combien de temps ça va durer? À partir de quand est-ce que l'entourage du président va réellement accepter le résultat de l'élection? Parce que si on ne le fait pas avant le 20 janvier, oui, ça peut avoir des répercussions qui sont sérieuses.
OK. Raphaël, merci pour ces explications ce matin. On va se reparler, ça c'est clair.
Avec plaisir.
Salut, bye-bye, à bientôt.
Bye-bye.
Raphaël Jacob, spécialiste en politique américaine, chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand.